jungle, avant que les personnes qui étaient le jungle passaient pour Angleterre ou arrivaient pour Afghanistan ici.
Donc bonjour, hein, donc toujours l'écho des jungles. Hein. Donc aujourd'hui c'est la troisième étape du Jungle Tour et nous sommes arrivés à Nordrenfont et nous sommes donc avec Marc Boulnois. Bonjour Marc.
Bonjour.
Marc qui est le maire de Nordrenfont avec l'abbé Michel Delannoy.
Lui-même, maire. Bonjour à tous.
Avec Lily Boilet. Hein.
Bonjour.
Avec Samir, qui est d'Érythrée.
Bonjour. Bonjour.
Et avec Monique Suarez.
Bonsoir.
Voilà. Et donc, tout le monde ici, hein, je crois que vous êtes tous des, comment on peut dire, des militants ou des bénévoles de l'association Terre d'Errance.
Oui.
Voilà. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu quand même de l'histoire de Nordrenfont avec la jungle qui est là, puisque c'est une jungle qui est, on pourrait dire, une jungle historique.
Alors, je pense que ça fait plus de 12 ans qu'il y a quelques personnes qui stationnent ici sur Nordrenfont. Ça a commencé avec le Kosovo. Hein, donc, d'ailleurs, les gens ils disent encore les Kosovars, comme c'est resté. Puis ensuite, il y a eu d'autres populations, kurdes, et puis afghanes, soudanaises, et Érythrée, Éthiopie également.
Donc c'est une
et
jungle.
Et Palestine également, Égypte aussi, oui. On a eu du monde passé.
Donc c'est une jungle qui est antérieure à la fermeture du camp de Sangatte.
Ah oui, 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 bien antérieure.
Ouais. Et donc voilà, mais je t'ai coupé par contre quand tu racontais l'histoire de la jungle en te posant cette question.
Alors, la jungle existe donc depuis longtemps et il y a toujours eu quelques personnes qui se sont fait proches de ceux qui vivaient dans les abris de fortune. Et puis de là est né ensuite un collectif pour organiser un peu les affaires autour de la jungle. Hein. Et puis ensuite, très vite est venue la création de l'association Terre d'Errance. Voilà.
Voilà. Et donc maintenant, il y a eu, je crois, quelques petits problèmes au niveau notamment de la préfecture. Peut-être Marc, tu peux nous en parler.
Alors, les problèmes avec la préfecture et les services de l'État. Donc depuis l'organisation de la jungle et la création aussi de l'association ou la mobilisation des bénévoles, la préfecture a toujours eu la volonté de ne pas laisser se fixer, comme elle dit, des migrants sur le territoire. Donc dès 2008, il y a eu des interventions régulières pour démonter, pour enlever les camps, avec un moment assez terrible. C'était à l'hiver 2007. À l'hiver 2007, où là, sous le froid, la neige, etc., les forces de l'ordre ont investi le camp, ont tout démonté, ont laissé les gens sans abri. Et donc là, ça a pas mal choqué et mobilisé les bénévoles. Et puis, alors au fur et à mesure, et puis avec les évolutions, avec l'arrivée d'une nouvelle municipalité, il y a eu l'installation du camp sur des terrains municipaux. Et suite à ça, ça s'est calmé dans l'idée de démonter. Et en décembre de l'année dernière, le préfet, le 25 décembre, m'a envoyé une mise en demeure pour faire démonter le camp en un mois de temps, donc en plein hiver, sur lequel donc, on s'est opposé. Et sur lequel aujourd'hui il n'y a plus d'intervention, en tout cas de démantèlement ou de volonté de démonter les camps. Néanmoins, et là je laisserai plus Lily répondre, la présence policière est toujours là. Il y a des arrestations, il y a des interpellations régulières.
Voilà, donc Lily, tu...
Alors effectivement, si depuis début 2008, on avait réussi à donc grâce à la tolérance de la municipalité à stabiliser le camp. Par contre, effectivement, depuis 6 mois en fait, le début du bras de fer avec le préfet, On en est à la 11e personne qui a été interpellée et incarcérée. Alors que les deux années précédentes, on en était à peu près sur 3 ans, à peu près une dizaine de personnes pareilles. Là, ça fait 11 en 6 mois. Et donc, c'est une pression constante, en fait, mais qui n'est pas sur la jungle même, mais sur le parking et qui crée beaucoup de stress parmi les personnes migrantes.
Et quand les personnes, donc les gens qui sont ici, sont des Érythréens, quand les gens sont arrêtés, qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Ils sont gardés quelques heures, pour la plupart, et relâchés après un contrôle d'identité. Et relâchés, assez rarement mis en rétention, parce que inexpulsables. Sinon, pour ceux qui sont interpellés et présentés en comparution immédiate, c'est pour aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière. Donc là, ceux-là sont condamnés.
Mais comment est-ce qu'ils peuvent être... S'ils sont arrêtés, s'ils sont eux-mêmes habitants de la jungle, être condamnés pour aide au séjour, pour aide à l'entrée au séjour d'étrangers.
Parce qu'ils sont soupçonnés et condamnés pour être en fait des passeurs.
D'accord.
Voilà, ce que nous on appelle effectivement les fermeurs de portes.
Ok. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on rencontre ce genre de problème de gens qui sont arrêtés pour et mis en examen pour ce fameux article. Et je pense notamment à quelqu'un dont on a pas mal parlé, qui malheureusement n'est pas là avec nous maintenant, c'est Monique Pouille. Peut-être quelqu'un peut raconter son histoire.
Monique,
oui.
Un personnage. Donc Monique, c'est une habitante de Noirmoutier qui, dès le départ, a porté assistance, aide et a toujours été très aux côtés des personnes qui sont en difficulté. Et donc, effectivement, il y a maintenant quelques mois, en 2008, je crois, ouais, elle a été inquiétée parce qu'elle rechargeait les portables, c'est ce qui a été le prétexte qui a été donné. Elle a été mise sur écoute, hein, comme pas mal de bénévoles de l'association. Elle a été mise sur écoute et à un moment donné, dans le cadre d'une enquête, dans le cadre d'une commission rogatoire, les forces de l'ordre sont arrivées tôt le matin. Tôt le matin chez elle, ont débarqué et l'ont emmenée. Sur Calais pour l'interroger pendant quelques heures. Donc ça a fort ému l'ensemble à la fois de la population, les militants, les bénévoles, les élus. Et il y a eu une forte mobilisation à ce niveau-là pour lui permettre de ne pas être plus inquiété. Aujourd'hui, a priori, il n'y a pas eu de suite donnée. Mais ça a fortement marqué. Ça a servi aussi de débat à l'Assemblée nationale, au Parlement, sur le délit de solidarité, qui est aujourd'hui inscrit dans la loi. Hein. On peut inquiéter un citoyen qui apporte de l'aide à des migrants, même si le gouvernement tente de minimiser en disant que s'il n'y a pas de rétribution, il n'inquiète pas les militants. Bon, là, ça a été le cas inverse. On l'a mis en garde à vue quelques heures.
Oui, d'ailleurs, on peut, si on veut inquiéter quelqu'un, tout simplement, il suffit de dire que c'est un passeur ou qu'il est en relation avec les passeurs.
Mmh. Oui, ou qui vient en aide, hein, simplement.
Oui.
C'est l'application de la loi aujourd'hui. L'article de loi pourrait permettre, si les forces de l'ordre le souhaitaient, d'inquiéter tout à chacun ici, tel qu'on aide de façon simple et humaine avant tout.
Et Monique avait porté plainte contre Éric Besson à l'époque, parce que Éric Besson avait dit qu'elle était dans des réseaux de passeurs avec son téléphone, avec les recharges de téléphone, et donc elle avait porté plainte contre Éric Besson, et est-ce qu'on sait où ça en est maintenant, cette plainte ?
Comme beaucoup de plaintes, je pense que le procureur de Béthune prend son temps pour les étudier.
Voilà. Et donc, nous sommes aussi avec Samir, qui est érythréen.
Samuel.
Et peut-être, est-ce que tu peux nous raconter le chemin déjà qui t'a amené ici ?
Could you tell me by English, please?
Oui, I'll translate. Tell us. Okay. When do you leave Eritrea?
Okay, I live in 2008.
En 2008, il a quitté son pays.
And then I go to Sudan.
Il est allé au Soudan.
And I cross to Baisara.
Il a traversé le Sahara.
Libya.
Et la Libye.
And then I go to Italy.
Et ensuite, en Italie, en Sicile.
Donc,
Yeah, I'm arrived in 2011.
En 2011, il est arrivé
France, Paris.
En France à Paris.
Okay. Et est-ce que tu peux nous parler quand même de la façon dont ça se passe, le passage donc en Érythrée, je crois que ça se passe très mal maintenant, et le passage au Soudan, puis le passage, la traversée de la Libye.
When you go through Eritrea border, was it difficult?
Yeah.
Why was it difficult?
Yeah, it's difficult, but the border is surrounded by the soldiers, and then at that time I was a soldier.
Il était soldat à cette époque-là, la frontière est entourée de soldats, mais il était soldat. Donc, go on, you can go. Tell.
Well, yeah, but I crossed to the border of Eritrea to Sudan. That's why it's because of I'm a soldier.
They let you.
I know the border and the field of the border of Eritrea and Sudan.
Il a traversé un champ entre l'Érythrée et le Soudan. You know it. You
yeah,
know
yeah.
that place.
Yeah, I know.
Il savait où il
allait passer. That's why I passed.
Oh. Mm-hmm. C'est pourquoi il est passé, parce qu'il connaissait.
Ouais. And after from Sudan, you crossed Sudan, but
and then I crossed to the Sahara of Libya.
Il est allé vers le Sahara libyen.
Voilà. Et en Libye, je crois que c'est très difficile aussi.
Oui.
Oui, it's difficult, but I have been in the Sahara about 2 weeks.
Il est resté 2 semaines dans le Sahara.
To cross the Sahara only.
Pour traverser le Sahara seulement.
And then I entered to Tripolis, the capital city of Libya.
Il est arrivé à la capitale de la Libye, en Tripoli.
Yeah, Tripoli. Yeah. And then I start by ship. To Italy.
Voilà, il a pris un bateau pour l'Italie.
And then I waiting in the Mediterranean Sea about 4 days.
Il a attendu 4 jours pour ce bateau.
On the ship, and then I.
Ah, 4 jours sur le bateau pour arriver en Italie.
And I arrived in Sicily.
Il est arrivé en Sicile.
Et est-ce que tu peux donc il n'y a pas eu de difficulté pour prendre le bateau depuis la Libye?
You didn't have difficulties to take the boat from Libya.
But it's difficult, but some agent people I got some agency, yeah, and they send by 1,000. I paid money.
Oui, il a payé l'argent à certaines agences pour
1,800
$1,100 à cette agence pour pouvoir traverser.
1,800 dollars
pour pouvoir traverser.
Et donc la traversée, ça s'est passé comment ensuite?
How does the crossing was? How was the crossing from Libya to Sicily? About the sea, the boat. Were you very many of them on the boat?
About 320.
Ils étaient environ 320 sur ce bateau. And
a small boat or?
It's medium. It's small boat.
C'est un bateau moyen.
Mm-hmm. Okay. Et donc là, tout le monde est arrivé sain et sauf.
Everybody arrived.
Yeah, arrived in Sicily.
Without losing anybody.
Yeah, no.
Ils n'ont perdu personne.
Et arrivé en Sicile, comment ça s'est passé?
And what about Sicilia when you arrived?
When we arrived and then we are going to Rome, we are find like us Italian people, they are talking about the situation of Italian, and they say no, like this. And we are sawing, they sleep in the street, something like this.
Il a rencontré des Érythréens qui les ont conseillés et qui dorment. Il leur disait on dort dans les rues, mais il avait le conseil d'autres Érythréens qui étaient déjà en Sicile.
Ouais. Et en Sicile, tu arrivais par Lampedusa ou directement sur le
Sicile.
Sicile.
First, I go to I arrive in Sicily and then I go to Roma. I found Érythréens like me and they say. They ask asylum in Italy, but it's in bad situation.
Il a rencontré des Érythréens qui lui ont conseillé de demander l'asile en Italie, mais c'était pas.
Non. Il a rencontré des Érythréens à Rome qui lui ont déconseillé parce qu'eux-mêmes avaient demandé l'asile et vivaient dans les rues. Donc ils déconseillent aux nouveaux arrivants de rester, vu la situation dramatique en Italie.
Ok. Et après, tu es remonté, pour ne pas demander l'asile, tes empreintes n'ont pas été prises en Italie.
You didn't.
Yeah.
Fingerprints.
I'm not given to France fingerprint. And then I'm not asking asylum anyway.
Il n'avait pas demandé l'asile.
Yeah, I'm to arrive to Paris from Roma.
Il est arrivé straight à Paris away. De Rome.
And then I try to England.
Il a essayé d'aller en Angleterre.
I have no good chance.
But il n'a pas eu de chance.
I stay long time in France. That's why I'm asking in France.
Il est resté longtemps en France. Demande l'asile. C'est pourquoi il demande l'asile en France.
Et tu es resté combien de temps en France? Hein?
How long did you stay in France?
Now about 3 months.
3 mois en France?
Yeah.
Before going to England?
No. When I was asked asylum,
oui.
About 5 months like this in staying.
5 mois en France, elle m'a demandé l'asile. Oui?
No. Non. Demande d'asile is three months.
Ah ouais.
Il a essayé pendant 2 mois, ça ne marchait pas, donc il a demandé l'asile il y a 3 mois.
Voilà. Et maintenant, donc, tu es demandeur d'asile et tu es toujours sur le campement.
No, you are not in the jungle now.
No.
As he's asking for asylum, is.
Yeah, I'm living with
Papa Michel
in Lillers,
mm-hmm.
And he helped me.
Because
I'm sleeping even in
parce que la situation des demandeurs d'asile n'est pas facile parce que ils devraient pouvoir être hébergés, mais la difficulté c'est que il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas de CADA, il y a des CADA mais il n'y a pas de place qui se libère parce que voilà, parce que aussi il y a des gens qui sont dans des CADA depuis 3 ans qui attendent une réponse de l'OFPRA et qui n'arrivent jamais. Et alors que si, comme en Angleterre, la demande a été étudiée et au bout d'un mois, 2 mois, la réponse était donnée, il y aurait certainement moins de demandeurs d'asile, moins de personnes dans les CADA. La situation est que les CADA sont pleins parce qu'on fait traîner les gens. Alors bon, actuellement, il y a un Afghan et 3 Érythréens qui ont demandé l'asile, qui sont chez moi. Il y en a d'autres qui sont aussi chez Monique et d'autres ailleurs aussi, parce que l'État ne prend pas en charge, comme il devrait le faire, normalement, les demandeurs d'asile. Voilà. Ah oui. Mais ça, c'est dû au fait qu'il y a trop de personnes. J'ai encore reçu un coup de fil d'une personne, ça fait 3 ans qu'elle a demandé l'asile politique. Et l'OFPRA lui a donné la réponse négative. Alors il doit faire le recours. Il est en CADA, donc il va encore. C'est un jeune Afghan. Il va encore devoir attendre, je ne sais pas combien de temps, un mois, un an peut-être, pour avoir sa réponse par rapport au recours.
Et toujours sans logement et.
Lui, il a un logement,
lui,
mais.
Logement CADA. Oui.
Voilà, donc bien sûr, hein, on est presque en direct, hein, on est à l'extérieur là, et c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de bruit autour et que ce n'est pas les conditions tout à fait d'un studio. Peut-être, Lily, tu peux rajouter quelque chose ou...
Sur les CADA, peut-être dire 2 mots sur les CADA.
Oui.
On a eu une réflexion ici, les élus localement, il y a maintenant un an peut-être, où on a proposé 4 élus, 4 maires des communes du territoire, on a proposé de s'engager à accueillir un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile sur notre territoire.
Mm-hmm.
Parce qu'il y avait un appel à projet, hein, Besson lançait un appel à projet pour l'installation dans le Pas-de-Calais d'un nouveau CADA. Donc on avait fait cette démarche-là en lien avec une association Habitat Insertion. On n'a pas été retenu. Je pense que le CADA n'est pas encore ouvert.
Il y a eu 40 places à Arras.
40 places à Arras.
Ouais, 40 places à Arras. 40 Sachant places. Que voilà, sur le Pas-de-Calais, on en est à 200 personnes à Calais en moyenne ces derniers mois. Et puis voilà, 3 ou 4 camps où il y a à peu près une trentaine de personnes. Donc ça fait un peu léger le jour où plusieurs personnes veulent demander l'asile. Oui, à rajouter, à part le fait que le système est complètement engorgé et qu'il n'y a absolument aucune volonté de l'État à l'heure actuelle de prendre en charge et de créer un réel accueil qui permet du coup une meilleure intégration de toutes ces personnes qui arrivent, ça crée en fait la situation qu'on trouve dans le Nord-Pas-de-Calais, de gens qui veulent qui fuient et la France et l'espace Schengen, puisque bon, il n'y a pas que la France qui est en situation dramatique, mais il y a l'Italie, il y a la Grèce où c'est encore bien pire, il y a les pays d'Europe de l'Est qui n'ont aucune vocation en fait, voilà, aucune tradition d'asile et qui se retrouvent maintenant avec le règlement Dublin 2, avec l'obligation de maintenir ces demandeurs d'asile sur leur territoire alors qu'ils n'ont pas les infrastructures pour, ils n'ont pas la tradition d'accueil, donc ça crée des situations dramatiques puisque des gens qui obtiendraient l'asile un peu à la star des Érythréens à 90% en Angleterre ou en France ont du mal à pouvoir avoir accès à l'asile puisqu'ils ont généralement été fichés par prise d'empreinte digitale en Italie, donc pour les Érythréens, mais aussi en Grèce, et puis pour les autres nationalités, c'est la même façon. On voit de plus en plus d'Afghans ou d'Irakiens avec des empreintes en Hongrie, et ils n'y ont rien à y faire, ils n'ont pas de famille, pas de tradition, donc tout ça. Mais en fait, on a jeté ces 8 dernières années un nombre qui est pour l'instant incalculable de personnes sur les routes de l'Europe, qui sont donc ces personnes qui sont toujours mobiles, toujours en transit, et ce pendant des années. Donc on voit passer certaines personnes, quand elles sont en Europe que depuis quelques mois, donc dans un état... voilà, c'est encore le moteur d'elles-mêmes. Et puis quand on les revoit au bout de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans d'errance, elles sont complètement cassées psychologiquement, physiquement, et que même si un jour elles obtiennent une régularisation quelque part, l'intégration ne se fera plus du tout dans les mêmes conditions que 5 ans auparavant. Parce que comment devenir autonome quand on a eu l'esprit et le corps brisés pendant des années avec harcèlement policier, avec instabilité, avec vivre dans des conditions précaires dans les jungles. Parce que même s'il y a des associations qui essayent de
pallier.
Voilà, de pallier à ça, même s'il y a des maires qui soutiennent la démarche, ça reste toujours des endroits précaires où il ne fait pas réellement bon vivre. Et surtout, en fait, le système alimente le système. C'est-à-dire des gens qui avaient vocation à s'installer quelque part, à faire des études, à trouver un travail, en fait, sont toujours en errance et donc sont obligés de se développer des stratégies alternatives pour survivre, pour leur subsistance. Et donc, on s'en sort pas. C'est le serpent qui se mord la queue.
Voilà, donc on arrive avec toute une population, plein de gens qui sont finalement qui sont comme des boules de billard aux frontières de l'Europe. Alors, je rappelle qu'on a un micro à chef. Si quelqu'un veut intervenir, poser une question ou faire une remarque, le micro est là. Hein. Oui, bien sûr, vas-y.
Non, il commence à pleuvoir.
Il commence à pleuvoir. Ah, si, il commence à pleuvoir, désolé, on est obligé de tout interrompre maintenant.
On est dans le Pas-de-Calais.
On est dans le Pas-de-Calais. Donc, soit on continue, soit on reprendra demain.
Voilà.
Au revoir, merci, on était en
merci.
Direct.
Merci.
De Noreen Fonte.
Merci.